Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir, bonsoir, il est dimanche et nous sommes à 22h. Ah, c'est l'inverse. Nous sommes dimanche et il est 22h et c'est la causerie qui démarre. Et ce soir, nous avons Clara à la technique.
Bonsoir.
Bonsoir, content de te rendre... Ouh, là, je la refais celle-là aussi. Content de te revoir.
Merci.
Et on a Jean-Yves aussi.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-Yves.
Et bonsoir Fab.
Et voilà, et donc c'est... Ouh, là, ça j'y arrive pas ce soir. C'est la 509e émission de la causerie. Je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai la bouche qui part pas dans le bon sens. Et donc on va...
Il faut aussi bouger la langue en fait.
Ah, c'était ça.
Oui, oui.
Parce que j'ai essayé avec le nez, mais ça marchait
non,
pas
ça
bien.
Marche pas.
Et donc on va essayer quand même de faire une émission à notre habitude avec... on va commencer par toi, Jean-Yves, avec deux sujets. Et le premier concerne les suites de ce dont tu avais parlé le 11 décembre, si ma mémoire est bonne.
Le 10.
Le 10. Ah, j'y étais un jour près.
C'était pas mal. Alors effectivement, dans la causerie du 10 décembre 2023... Je vous avais parlé de la CIVISE, qui veut dire donc Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et je vous avais causé de son rapport après 3 ans d'activité. Et j'avais terminé sur un éventuel changement de présidence et d'un potentiel élargissement de mission. Les choses n'ont pas traîné, parce que ça s'est précisé dès le lendemain. Le 11 décembre, en fait, était annoncée donc la reconduction de la CIVISE, mais avec un changement de direction. Édouard Durand et Nathalie Mathieu, anciennement coprésident et coprésidente, étaient remplacés par Sébastien Bouel, président de l'asso Le Colosse au pied d'argile, plutôt dans la pédocriminalité, dans le sport, on va dire.
Oui, c'est un ancien rugbyman.
Oui, c'est ça. Qui était donc lui nommé président. Et de Caroline Rey-Salmon, pédiatre légiste, elle était nommée vice-présidente. Alors déjà, je trouvais que c'était intéressant, cette inégalité mise en place. Allez, la première commission, c'était des coprésidents et coprésidentes. Ouais. Là, on a un président et une vice-présidente. C'est marrant. Hein. Enfin bon, bref. C'est pas grand-chose, mais en même temps, je trouve que...
Non, mais c'est symbolique.
Oui, je trouve. Alors oui, clairement, ce changement de direction, il a amené 12 personnes à démissionner de la CIVISE. Et début janvier, une tribune est publiée sur l'avenir de la CIVISE et la crainte de voir les 82 préconisations tomber dans l'oubli. Et en fait, autour de tout ça, il y a quand même aussi, enfin, il y a eu beaucoup d'interrogations et de critiques en fait au sujet de Sébastien Bouel et de Caroline Rey-Salmon. Alors le premier, pour des positions qu'il a pu exprimer, je vous en partage quelques-unes. Alors déjà, il fait une éloge de la résilience à tout craint. C'est un concept qui peut faire bondir de nombreuses victimes. Et pour pas vous mentir, je l'ai vu, enfin j'en reparle plus tard, mais je l'ai vu dans une émission et enfin vraiment il se présente tout de suite en... Enfin, quand un journaliste lui dit « Oui, pour vous, beaucoup de résilience », il dit « Oui, je suis la preuve vivante de la résilience ». Enfin, il y a un truc autour de tout ça et de lui-même, c'est assez, assez phénoménal, en fait. Et que, encore une fois, enfin, ça va rejoindre d'autres points, mais j'ai l'impression qu'il est très centré sur sa propre expérience. pour en fait en faire une généralité en fait. Mmh. Et il y a quelque chose d'assez bizarre. Autre propos ou autre position qui a pu, on va dire, déranger, c'est le fait en fait qu'il n'est pas favorable à l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs.
C'est marrant que c'est la même position que Dupond-Moretti et Macron.
Ben ouais, c'est marrant.
C'est étonnant hein, qu'ils aient changé le président du coup.
Et là aussi, hein, c'est une demande qui est assez fréquente des assauts de victimes, qui est cette imprescriptibilité, même si, enfin j'en ai déjà parlé, elle peut faire débat, etc. Mais il y a quelque chose de, même si ce n'est que symbolique, et encore je ne pense pas, c'est quand même quelque chose d'assez important quand même.
C'est l'idée qu'en fait la justice doit pouvoir se prononcer à n'importe quel moment de la vie de la personne. Qu'après elle puisse, la justice même, dire... on n'a plus assez de preuves matérielles pour, ok, mais au moins il y a une instruction qui est ouverte. Alors que là, la prescriptibilité, enfin quand ça peut être prescrit, ça veut dire que la justice, elle ne peut plus saisir. C'est là qu'est le petit détail quand même.
C'est ça. Et autre point aussi, hein, c'est le fait qu'il mise à mort en fait sur les associations. Et dans la tribune justement, il est écrit en fait que c'est une sorte d'aubaine en fait pour un ministère délégué. Qui souhaite clairement désengager l'État de la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, quoi. Et autre interrogation qu'il y a aussi, c'est sur l'indépendance en fait de ce président d'association, quand on sait que son principal financeur, l'État, le finance à moitié du chiffre, du chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros de son association en fait. Donc là aussi, il y a des interrogations qui, à mon avis, sont quand même assez légitimes en fait, de se dire mais en fait. Est-ce que tu vas pouvoir avoir ce regard et ce pas de recul et cette critique sur l'inaction que l'État, etc., de sa justice, etc.
Alors que les deux anciens coprésidents, je crois que de mémoire, étaient juge à la retraite.
Oui, juge des enfants.
Et elle aussi était...
ne sais plus.
Mais je crois qu'elle était elle aussi à la retraite, okay. Ce qui fait qu'en fait, ils n'avaient pas de... ils n'avaient pas de lien avec l'État, c'est-à-dire à part le fait de toucher une retraite.
Ouais, ils avaient une indépendance. Quoi.
Mais ils avaient une certaine indépendance, du coup. Ouais.
Et quant à la seconde, hein, donc Caroline Rey-Salmon, sa présence dans la Civise a aussi fait réagir. Alors déjà, premièrement, c'est parce qu'elle avait démissionné de la première Civise. Pourquoi, vous allez peut-être me demander.
Et pourquoi
Merci. Merci pour ce jeu. Parce qu'en fait, elle refusait le signalement obligatoire des violences sexuelles sur les mineurs par les médecins. C'est quand même étrange, non, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de... Parce que ça s'appelle en assistance à personne en danger, finalement, d'une certaine manière, en fait, quoi.
Ouais, puis surtout, c'était une... Je crois que dans les 82 préconisations, c'était une des premières.
Oui.
C'était l'idée que c'est souvent le médecin qui était en première ligne, entre guillemets, qui pouvait repérer quelque chose, voir quelque chose. Et donc, déjà, s'y opposer, c'est déjà faire s'effondrer les 80... Enfin, je pense d'où l'inquiétude, parce que ça fait s'effondrer les 82 préconisations. S'il a déjà une des trois premières, on dit non, a priori, la deuxième aussi, il y en a non, l'imprescriptibilité, parce que du coup ils sont contre tous les deux.
Oui,
donc du coup, voilà.
Et autre chose qui a fait bondir pas mal de monde autour de ce thème et de ce combat, c'est en fait c'est que la même, donc Caroline Rey-Salmon, elle n'a pas hésité hein, dès sa nomination à citer le procès d'Outreau comme exemple, de la parole potentiellement défaillante des enfants victimes. Ce qui est étrange, non, quand même.
Enfin,
surtout en regard, en fait, au je te crois, je te protège de la première équipe de la Civise. Il y a quelque chose de vraiment très perturbant autour de ce personnage.
Ouais,
mais ça se finit pas là.
Et puis surtout, alors, on sait tous qu'à Outreau, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Mais c'est un épiphénomène. Je veux dire, par rapport au nombre de procès qu'il y a eu, au nombre de personnes qui ont été.
Oui.
Voilà, les erreurs qu'il y a eu à Outreau, et encore une fois, reprenez, il y a des très bons reportages qui ont été faits, c'est même pas des grosses erreurs, contrairement.
Oui,
parce qu'il y a beaucoup de gens qui surfent là-dessus, alors qu'en fait, oui, c'est quelques petites dérives qu'il y a eu, ou des choses qui sont pas admissibles. C'est pas, le mon propos, c'est pas de dire, c'est pas grave. Mais juste, c'est un épiphénomène qu'on monte en épingle en disant, ça devient une sorte de vérité absolue. Et c'est marrant parce que ça rejoint ce que tu disais sur le président actuel qui part de son cas et qui dit, mon cas, c'est la résilience, donc la résilience est une vérité absolue. Mmh. Et en fait, c'est très, très dangereux de penser comme ça, surtout dans ces questions-là.
Plutôt, oui. Et donc début janvier, donc cette tribune et ses critiques, et le 6 février, hein, parce que chaque mois c'est bonne nouvelle autour de la Civise, hein, c'est ironique ce que je vous dis. Donc le 6 février, hein, on apprend qu'une plainte a été déposée contre Caroline Rey-Salmon, donc vice-présidente de la Civise. Louison, la plaignante, accuse cette dernière d'avoir commis une agression sexuelle lors d'un examen gynécologique il y a plus de 4 ans, qui avait lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire après que la plaignante est confiée avoir été victime d'inceste dans son enfance. À l'époque, la brigade de protection des mineurs s'était tournée vers Caroline Ray-Salmon, encore une fois, spécialiste, légiste, etc., pour que cette dernière réalise une expertise gynécologique. La plaignante est donc convoquée à l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Paris en juin 2020, et elle s'y rend avec quelques appréhensions et elle en ressort avec une conviction la suivante: j'ai été victime d'une nouvelle agression sexuelle durant l'expertise. Pendant la consultation, Caroline Ray-Salmon lui aurait indiqué qu'elle n'avait pas subi de viol vaginal puisque son hymen n'était pas déchiré. Ça, c'est de l'expertise. Et le rendez-vous prend alors une autre tournure que Louison a partagé dans son témoignage qu'elle a posté sur Instagram, et je la cite,
et qui a été vérifié par Libération et Le Monde.
Je la cite donc: elle a posé ses doigts sur moi, a fait des mouvements de va-et-vient et m'a demandé de fermer les yeux et d'imaginer que c'était le pénis de l'agresseur afin de me souvenir du mouvement exact qu'il faisait. Je disais que je ne savais plus, mais elle insistait: si, allez, souvenez-vous, ce n'était pas plutôt ce geste qu'il faisait. Alors, en fait, Louison, à l'époque, se bat pour faire reconnaître l'inceste dont elle a été victime dans son enfance. Et Louison, en fait, elle explique qu'elle n'a pas voulu porter plainte à l'époque, contre Caroline Ray-Salmon. Mais lorsqu'elle découvre, en fait, les noms de la nouvelle équipe de la Civise, le 14 décembre dernier, elle change d'avis en fait, et elle cite toujours sur Insta: en voyant son nom, son visage, je suis resté sidéré. Je pouvais pas y croire. Je suis retourné dire ma convocation pour l'expertise médicale afin de m'assurer qu'il s'agissait bien d'elle. La vice-présidente de la Civise conteste l'intégralité des accusations, évidemment, j'ai envie de dire, comme tout le temps. Mais des écrits de Caroline Ray-Salmon datant de 2018 et retrouvés par France Info confirment la méthode de cette chère spécialiste. En effet, dans la revue spécialisée Les Cahiers de la Justice, la médecin expliquait, je cite: les enfants méconnaissent leur anatomie génitale et n'ont pas les mots pour décrire ce qu'ils ont subi. C'est tout l'intérêt de faire avec l'enfant, sur la table d'examen, une sorte de reconstitution des gestes de l'agresseur et de recueillir ses sensations pour être au plus près du déroulement des faits. Voilà, c'est une pratique, je précise quand même, qui est invalidée par bon nombre de pédiatres légistes et de psychiatres experts, consultés encore une fois là aussi par France Info. Et en fait, on comprend bien pourquoi. Enfin, il y a quand même...
C'est refaire subir la violence.
Oui, c'est hallucinant, quoi. Prenez le cas de figure de toute autre chose qui pourrait vous arriver, et vous vous diriez, mais c'est...
Pour reprendre l'exemple qu'a donné, j'ai trouvé ça très bien à la radio, il y a une victime qui disait, imaginez, vous avez un coup de couteau, vous arrivez à l'hôpital, on vous replante un couteau pour vérifier
que c'était bien là.
Et en fait, elle dit, personne ne ferait ça. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Je trouve que son exemple était très bon, parce que c'est surréaliste de faire revivre à quelqu'un une agression sous prétexte d'avoir les bons gestes.
Oui.
Et surtout, j'ai vu aussi qu'elle avait été désavouée par beaucoup de ses confrères et tout, qui ont écrit d'ailleurs une tribune très bien pour dire ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi, en gros. Et surtout, moi, ce qui m'interroge dans tout ça, c'est que, parce qu'on en avait parlé et que moi j'avais eu l'info, je pense toute l'équipe de la causerie avait vu cette info, moi ça m'a pris approximativement 30 secondes pour retrouver l'écrit de la dame. C'est-à-dire que j'ai tapé, j'ai dit 30 secondes, donc le fameux site Cairn qui prend tous les écrits publics, donc voilà. Et donc en 30 secondes, je suis retombé sur cette affirmation-là. Moi, il faudra qu'on m'explique comment le ministère, c'est-à-dire des gens qui ont quand même du temps et des moyens, n'a pas pu faire ce que j'ai fait moi en 30 secondes, c'est-à-dire retrouver quelque chose qui quand même devrait interroger. C'est-à-dire, vous voyez, à un moment donné, on se dit peut-être c'est pas la bonne personne au bon endroit. Et en fait, ça démontre, une fois de plus, que la ministre qui l'a nommé, ou le ministère en tout cas qui l'a nommé, se contrefout des victimes parce qu'elle ne vérifie pas qui elle met pour être vice-présidente donc d'une association de recueil de la parole des victimes. C'est quand même juste phénoménal.
C'est ça. Alors le même soir de l'info de la plainte, en fait, le président Bouheil, il était invité le 6 février, je précise, dans l'émission quotidien qui a lieu sur TMC, et il a été interrogé à ce sujet. On n'en attendait quand même pas moins. Et sa déclaration, elle était juste dégueulasse. Alors un soutien direct à l'accusé, et absolument aucun mot pour la victime, mais une litanie sur le climat qui l'entoure depuis sa nomination, les attaques sur les réseaux sociaux, le fait que la veille il avait rencontré la ministre et qu'il a commencé par 57 secondes de silence parce que c'était les 57 jours sur lesquels, pendant lesquels ils ont subi plein d'attaques. Mais en fait, les attaques, à ce que je vois, en fait, elles étaient justifiées, quoi. Donc, il était juste hallucinant.
Et puis, c'est pas tellement des attaques qu'il a subies. Moi, je suis allé voir un peu ce qui était. C'est plutôt des interrogations.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont posé des interrogations qui étaient légitimes. Par exemple, il y a une interrogation qui revient beaucoup et que je trouve parfaitement légitime. L'ancien président, c'était un juge. Donc, en fait, il pouvait valider. C'est-à-dire qu'il avait ce qu'on appelle le sceau de justice. C'est-à-dire qu'il pouvait valider tous les témoignages, qui pouvait éviter d'ailleurs aux personnes qui avaient témoigné de devoir retémoigner. C'est-à-dire qu'en fait, ça validait leur témoignage, ça évitait que, voilà. Sauf que lui, il l'est pas. Donc, en fait, une des interrogations premières qui est venue, c'est de dire, vous enlevez à la Civise le statut juridique qu'elle avait. C'est-à-dire que, ça va obliger les gens, ils vont témoigner à la Civise, puis après, il faudra qu'ils retournent témoigner au commissariat, ou devant un procureur, ou devant un juge. Et en fait, cette question, elle est revenue plein de fois. Et je l'ai entendu dire, ce monsieur, qui trouvait ça inadmissible qu'on mette en cause ce point-là. Mais il est logique, ce point. Je veux dire, pour les victimes, c'est quand même logique qu'à un moment donné, quelqu'un se dise, là, tu me demandes juste d'aller faire deux fois mon témoignage. Quel est l'intérêt? Je veux dire, c'est déjà pas facile de déposer une première fois un témoignage. Lui demander de doubler, c'est complètement idiot. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné. Et ça, c'est un point qui est revenu beaucoup. Et lui le prend comme des attaques. Moi, je prends ça comme une interrogation purement légitime et qui n'est pas de forme, qui est surtout de qu'est-ce que vous allez faire de la Civise. C'est-à-dire qu'en gros, en quoi vous transformez cet outil qui était un outil plutôt judiciaire, au sens permettre de quand même avoir un point de vue judiciaire sur les choses, et juridique, et sociétal, et tout ce que vous voulez, en outil vide. Parce que finalement, ça va être juste une caisse d'enregistrement, ce que n'est pas censé être la Civise.
C'est ça. Donc j'en reviens toujours à cette émission quotidien. Donc et cette litanie là de Sébastien, je crois, oui, Boyle. Et quand même jusqu'à ce que le journaliste Jean-Michel Apathy relève en fait, il l'a très bien fait, relève la contradiction entre le je vous crois de la Civise et les propos du président de soutien direct à Caroline Ray. Et de rappeler aussi à Sébastien Boyle que en fait on parlait pas là d'attaque sur les réseaux sociaux, mais d'une plainte dans un commissariat.
Oui, c'est ça.
Enfin, réveille-toi, mec. Et vraiment, derrière ça, Boyle répond, mais en fait, il fait que s'enfoncer, parce que vraiment, il n'a que des mots quasiment pour la présidente. Et quand il parle de la victime en disant c'est très bien qu'elle porte plainte, machin, mais Caroline aussi portera plainte. Mais en fait,
La plainte pour diffamation, c'est la base de défense de tous les violeurs.
Et t'avais presque envie de lui dire, mais juste ferme ta gueule, en fait, parce que tout ce que tu dis, c'est de la merde, donc ça ne sert à rien.
On voit qu'il n'est pas tellement au fait pour un président de la Civise.
C'est
inquiétant, quoi.
Clairement. Oui, il y a quelque chose de.
Non, mais c'est inquiétant, je suis désolé. Moi, quelqu'un qui réagit comme ça, alors qu'il est à la tête, quand même, de ce qui est censé être le point d'orgue de la prise de parole des personnes victimes, excusez-moi, mais ça m'inquiète vraiment, quoi. Il est à côté de la plaque totale, quoi.
On peut dire ça. Alors, depuis. Bonne nouvelle, Ray Salmon, elle s'est mise en retrait total, je cite, le 7 février. Et Boyle, lui, il a démissionné le 8 février, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors évidemment, le second continue de dénoncer, je cite, « être la cible de calomnies et d'attaques personnelles ». En fait, mec, tu tiens des propos et t'as des positions qui sont clairement interrogeables, en tout cas, pour ne pas dire plus. En fait, oui, tu prends la tête d'un truc qui, pendant 3 ans, a été vraiment, je pense, assez exemplaire des retours qu'on a pu avoir.
Un énorme boulot.
Dis-toi juste que, en fait, on a viré quelqu'un qui faisait quand même, semble-t-il, bien le boulot. Et toi, tu viens et tu ne fais que dénoncer, finalement, l'ancien président et l'ancienne présidence. Tu viens avec des propos qui, finalement, ne se retrouvent pas dans une majorité, on va dire, de demandes des associations de victimes. Tu t'attendais quoi à ce qu'on te fasse une hola et des applaudissements et super merci, on attendait que toi? Non, gars, en fait, des fois, c'est à se demander quand même où sont les gens, en fait. Tu vois, dans quel monde ils vivent, c'est à se demander, vraiment. Bref, se pose quand même à nouveau la question, quel avenir pour la Civise? Alors, vu le casting de la saison 2, si le pouvoir politique voulait avoir une commission pas trop gênante, on peut se dire qu'il s'est complètement planté. Hein, voilà. Et clairement, le pouvoir politique voulait tuer, selon moi, la commission, du moins la rendre beaucoup moins mordante et efficace, et en fait la faire se perdre aussi dans des multiples missions, parce qu'il voulait élargir à mort les choses. C'est ce que j'avais terminé, je crois, la dernière fois que j'en avais parlé. C'est, est-ce que 3 ans suffisent pour des millions de victimes en France, en fait? Ça ne veut pas dire que les autres sujets ne sont pas importants, la prostitution des mineurs, le cyberharcèlement, etc. C'est pas du tout mon propos. Mais c'est juste, on aurait pu à la rigueur créer une autre commission. On peut faire des choses en parallèle, on peut croiser les choses. Enfin, je pense qu'il y a des possibilités, quoi.
Et puis les outils existent. C'est-à-dire qu'en fait, on allait élargir sur des choses qui ont déjà des outils. C'est ce que beaucoup de gens soulignaient, parce que sur le cyberharcèlement, il y a la cellule Pharos qui existe. Il suffirait de donner à la cellule Pharos une part un peu plus de prise de renseignement, enfin, comment on appelle ça, de recueil d'informations. Et ça se fait facilement. Donc il n'y avait pas besoin d'aller créer, enfin, d'aller surcharger la Civise. Moi, j'ai un avis très personnel, mais là, c'est moi qui parle comme ça. Au moins, si vous devez attaquer quelqu'un, vous m'attaquerez moi. Mais en tout cas, pour moi, en fait, on a senti dès la sortie du rapport, de toute façon, qu'il y avait une levée de bouclier aussi bien du ministre de la Justice, Dupond-Moretti, que du président de la République, qui, je le rappelle, ne s'est pas déplacé pour le rapport de la Civise, alors qu'il avait promis de le faire, qui avait envoyé un sous-ministre de sous-ministre attaché à je sais pas quoi pour aller recueillir le truc, ce qui était honteux, parce que c'est quand même pas un petit sujet, et qu'à un moment donné, bah, ça montrait aussi le mépris, hein, qui était affiché par l'exécutif, hein, de dire ouais, c'est bien, vous avez fini votre boulot, c'est cool. Et très clairement, on voit que là, c'est une volonté de tuer la Civise, mais surtout ça va au-delà, c'est une volonté de refaire taire les victimes. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un flux aussi important de gens qui allaient témoigner, qui allaient remonter en fait ce qui s'était passé, qu'on voit bien que la Civise et les témoignages qui en sont sortis et tout ça, ça a aussi débloqué certaines choses, et c'est très bien. On parle beaucoup en ce moment de Judith Godrèche qui a dénoncé son ancien compagnon et puis un réalisateur. Oui, parce que c'est présenté comme ça, donc je le redis comme ça. Pour moi, c'est son ancienne bourreau, pour être très clair, de mon point de vue. En fait, on en parle beaucoup, mais sauf que je suis persuadé que c'est aussi parce que ce travail a été fait que elle a pu elle mettre des mots sur ce qu'elle a vécu, de parler d'emprise, de dire ah en fait c'était pas normal, enfin voilà. Et tout ça, ça effraie en fait, parce que ça change le vieux monde. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça le bouscule. Et donc, il faut tuer ce qui bouscule. C'est ça en fait l'idée. Et là, on était typiquement dans ça. Moi, j'espère que la bourde qui a été faite de mettre ces deux personnes-là permettra aux associations notamment de se réapproprier la Civise, et pourquoi pas de faire pression pour qu'elle redevienne ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une vraie boîte porte-voix, on va dire voilà, un rouleau compresseur, parce que c'est ce qu'elle est, et après tout il faut des fois des rouleaux compresseurs pour abattre le vieux monde, hein, voilà. Et j'espère vraiment ça, parce que sinon, bah, je crains malheureusement qu'en plus de la perte de la Civise, on va avoir chez les victimes qui ont parlé un contre-coup et un retour de balancier assez terrible, et je le souhaite vraiment pas.
Ah bah voilà. C'est juste dire fermez vos gueules, quoi.
Ben c'est ça, ouais.
C'est ça que ça veut dire. Bref, la vigilance reste évidemment de mise, hein, parce que clairement, je ne fais pas confiance au soutien de Depardieu qui nous sert de président pour avoir une réelle volonté de s'attaquer aux violences sexuelles dont sont victimes les enfants. Hein, donc là, encore une fois, à chacun, chacune de nous, auditeurs, auditrices, et puis enfin juste des gens lambda, quoi, on est juste des gens lambda, ben, de s'intéresser à cette problématique et de voir que finalement le pouvoir politique est quand même très souvent, très 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 souvent, pour ne pas dire toujours, du côté des forts, n'est-ce pas, même s'il se veut être le défenseur des plus pauvres. Je pense que l'État démontre encore une fois qu'il est un des problèmes et pas une des solutions, parce qu'il détruit tout ce qui peut être positif et collectif, quoi. C'est marrant. Enfin, bah, pardon, je suis très cynique, mais j'ai pas autre chose, quoi.
Ben non, mais c'est sûr que ça bouscule la famille, ça bouscule tout. En fait, voilà, et c'est exactement le. Je sais plus, il y a quelqu'un qui disait le mot famille, c'est celui dont on doit le plus se méfier. Je sais plus qui est cette femme qui a dit ça, et je l'ai trouvé plutôt juste. C'est comme quand on dit la grande famille du cinéma. Elle dit c'est dans la famille qu'il y a les choses les pires qui se passent, et c'est l'endroit où il y a le plus de choses tues et silencieuses. Et donc, du coup, ben, voilà, la civile, c'est un peu ce qu'elle avait démontré, quoi. Elle avait dit, bah, en fait, non, la plupart des viols, c'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur de la famille.
C'est pas l'inconnu dans la rue.
Tu avais donné les chiffres.
Oui,
moi,
oui,
j'invite
oui.
vraiment les auditrices, auditeurs à aller réécouter l'émission du 10 décembre et pas du 11, du coup.
C'est ça.
Voilà. Et sinon, moi, j'avais une deuxième chose à dire, mais totalement à côté, mais qui a quand même du sens. Vous allez voir, c'est qu'à la causerie, en fait, bah, nous, on n'a aucun souci à passer des témoignages. On l'a déjà fait. On est prêt à le refaire. Donc, si vous vous sentez, vous, la force et l'envie de témoigner, on sait garantir l'anonymat, on sait changer les voix, on fait tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun souci. Non, mais voilà.
Notre monteuse Aka Clara sait très bien changer les voix.
On sait super bien faire. Et honnêtement, si vous avez besoin, si vous avez envie, s'il faut que vous posiez quelque chose et que vous estimez qu'on doit l'entendre, eh ben, nous, on est prêt à vous accueillir pour parler de tout, enfin, pour poser tout ça. Parce que c'est aussi le rôle d'une radio associative militante.
C'est ça.
C'est aussi le rôle d'une radio qui se veut contre ce putain de vieux monde, pardon, j'ai pris l'expression un peu vulgaire, pardon. Voilà, mais c'est à un moment donné, on est là pour ça.
Ben oui,
donc n'hésitez pas. Donc pour nous joindre, c'est lacauseriecanu@gmail.com et à aucun souci.
Ben oui, parce que comme...
Ou sur le blog.
Oui, ou sur le blog, tout à fait.
Et d'ailleurs, je voulais remercier Sacha et Cléopatra pour leur.
Cléopatra, retour... non
Cléopatra, pardon.
Cléopatra, c'est la colle.
Oui, c'est ça. Cléopatra pour leur ouais, message bon. Ouais. Auquel j'ai répondu.
Tout à fait.
Il n'y a pas très très longtemps.
Bon. Voilà. Mais oui, merde, je voulais dire un truc. Et oui, enfin pardon, mais je partage encore une fois ici ce que j'ai déjà pu dire. Je trouve que justement nos milieux militants si révolutionnaires qui beaucoup s'excitent devant un distributeur de billets de banque, eh ben, je les trouve très silencieux sur ces sujets qui, fondamentalement, je pense que le jour où on s'attaque à ces violences qui vous cueillent dès le berceau, eh ben, on aura peut-être vraiment aussi un espoir peut-être un petit peu plus important d'engager vraiment ce vieux monde qu'on espère un jour voir crever, parce que mais c'est, il faut qu'on s'en saisisse, quoi. Enfin,
en ce moment, il est plutôt bien attaqué, c'est cool, donc on continue.
Oui, mais je parle dans nos milieux.
Ah oui,
enfin,
non,
vraiment,
oui,
je peux parler de Radio Canu, de Rébellion et de Paris Lutte Info et de plein d'autres choses, hein, attention. Mais c'est
oui,
vraiment.
D'accord. C'est pas un sujet qui est très mis en
non,
avant. Ouais.
On a peur, je sais pas. Est-ce que ça fait peur de s'attaquer à la famille, etc. Ben ouais, en fait, le vieux monde qu'on souhaite crever, c'est pas juste l'étel capital. C'est tous les rapports de pouvoir. Voilà.
Et sur ce,
on passe à la musique.
J'ai la maladie de la tête ou quoi? Le futur nous réserve quoi? J'essaie de faire attention, où est ma notice, où est mon contrat d'expiration, au milieu des trous de mémoire. Certains cherchent à s'enfuir au plus loin du cauchemar. Y'a plein de raisons de tirer dans le tas. On a tous la gueule de l'éléphant man qui nous sauvera quand on aura bouché tous les couloirs. C'est l'histoire d'une époque qui nous rappelle que tout s'arrête. Il paraît que c'est la vie la vraie, paraît que certains d'entre nous veulent déjà voir la vie d'après. Génération, aidez-moi. C'est celle qui pleure. Ma génération, faut une opération. Si j'appuie, dis-moi, t'as mal. Ma génération, en réanimation. Quelqu'un reçoit-il le signal? Et on finira seul, on me l'a bien dit quand j'étais minot. C'est l'histoire qui se répète mais que l'on rappelle à demi-mot. Bien sûr qu'il y a de l'espoir, bien sûr on fait de notre mieux pour pas finir terre pas. J'ai bien noté mes devoirs. Pas le droit de partir avant de toucher l'heure de gloire. Pas prévu de me faire des entailles. J'ai beaucoup d'amis et quelques-uns qui saignent dans le tas. C'est la fin du monde mais j'ai pas dit lequel. J'aimerais bien qu'on s'allonge et qu'on regarde à travers le ciel. Comme elles ont du courage, des voix qui résonnent, qui sont déjà montées dans l'étage. Génération, aidez-moi. C'est celle qui pleure. Génération, faut une opération. Si j'appuie, dis-moi, t'as mal. Ma génération, en réanimation. Quelqu'un reçoit-il le signal? J'en ai vu des corps là où se cachent des âmes en peine. Et j'en ai vu des jambes trembler juste avant qu'elles ne cèdent. Ma génération, faut une autre.
si j'appuie, dis-moi où t'as mal.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canut, évidemment, et c'est toujours la causerie aussi, comme tous les dimanches ou presque, et nous venons d'écouter The Doug, c'est le chanteur, n'est-ce pas, avec le titre Génération. J'avais déjà passé un titre de lui, et je vous invite évidemment à écouter son EP, je ne me souviens plus le titre, mais c'est très très bon, The Doug donc, avec le titre Génération.
J'espère que ça fait taire tous ceux qui disent « Oh, la musique, aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui savent écrire ». Hein, voilà. Parce que juste, le gars, il a une plume hallucinante quand même. Voilà. Et c'est pas le seul, hein. Il y en a plein d'autres.
Non, c'est pas le seul, mais c'est vrai
que. C'est juste que vous écoutez pas les jeunes. C'est plus ça le problème.
C'est un peu ça. Voilà. Alors, c'est Fab qui prend la suite et qui va nous faire un petit liberté versus droit.
Ouais, donc on va parler avortement, constitution et liberté. C'est ça qui est bien, c'est comme on en fait le tour. Alors, on va partir d'une belle idée quand même, hein. Donc, il y a quelques temps, et suite à la remise en cause du droit à l'avortement dans plusieurs pays du monde, dont certains vus comme des démocraties libérales avancées, hein, quand même. Ne citons pas les USA, mais c'est quand même ça. Plusieurs associations féministes et personnalités ont eu l'idée de demander que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution française. Même si on sait que bien qu'une Constitution, ça peut toujours être révisé, on comprend le sens symbolique que cela aurait et quel poids ça mettrait. Parce que je vous rappelle que la Constitution, c'est le texte premier, donc ça met du poids dans ce que vous y mettez à l'intérieur.
Pardon, mais je ne peux pas retenir ce coup-là, mais tu veux dire une révision de constitution comme vient de demander Darmanin pour...
Hein, le droit du sol.
Pour le droit du sol, pour qu'on arrête le droit du sol.
Oui,
France.
Non, mais c'est pas magique, une constitution. Et ça peut être révisé pour des raisons totalement dégueulasses, comme c'est le cas demande Darmanin. Mais en fait, c'était aussi le message qu'il y avait derrière, qui était d'envoyer à l'échelle internationale, en offrant le fait qu'un pays dans le monde où serait en fait assuré le droit à disposer de leur corps aux femmes et aux personnes porteuses d'utérus. Voilà, c'était ça quand même l'idée. Donc l'idée, elle a fait son chemin, et elle est arrivée enfin à l'oreille des politiques. Des fois, au bout d'un moment, ils entendent. Voilà. D'abord des députés et sénatrices de gauche, puis cela s'est élargi. Et en théorie, on pouvait imaginer que cela se ferait donc sans heurts et sans coups fourrés. Parce qu'après tout, tout le monde avait l'air plutôt d'accord. Voilà. Que le consensus était finalement suffisant et suffisamment large pour qu'on avance et qu'on hisse le droit vers le haut. Hein, ça c'est bien, hein, jusque-là.
C'est quand qu'arrive le mai ?
Bah là maintenant. Mais c'était oublié qu'on est en France quand même, la fameuse fille aînée de l'Église, comme le dit souvent Jean-Yves, est un pays fondamentalement et globalement réactionnaire. Voilà. Donc on a eu un petit jeu de sémantique. Bien entendu, hein, on va pas se mentir, les réseaux religieux, catholiques en tête, mais pas que, ont hurlé à l'hérésie et à la trahison des saintes écritures. Alors si je dois dire ce que j'en pense, hein, des saintes écritures, j'en pense qu'elles ont autant d'importance qu'un catalogue Ikea de 1998. Oui, à peu près.
C'est mieux maintenant, les catalogues Ikea.
Non, mais enfin, ça rend pas le catalogue Ikea une sainte écriture, parce qu'il a été écrit en 98. Voilà. Donc, voir les religieux de tout poil vouloir de nouveau emmerder les femmes et les renvoyer à ce qu'elles voient les religions comme la place de celles-ci, c'est-à-dire des ventres pour faire des enfants, n'a rien de surprenant, hein, finalement. Mais il ne faut pas nier qu'elles pèsent encore ces saletés de religion et qu'elles ont des relais, parce que c'est peut-être ça le problème, en fait. Hein. Et ça n'a pas loupé. Les réactionnaires de France, d'extrême droite et de droite. Oui, alors j'écris un nouveau groupe, les réactionnaires de France.
Ils pourraient se le faire à l'Assemblée, sur un groupe de réactionnaires.
Je leur propose.
Oui, voilà, je pense.
Les réactionnaires de France, en plus ça leur plaira parce qu'il y a deux France. Oui. Ouais, c'est comme sur le poulet. D'extrême droite et de droite, on cherchait quand même une porte de sortie. Parce que là, voilà. Parce que passer pour des ringards anti-avortement, c'était aller un peu trop loin. Oui. Et seuls quelques-uns s'y sont osés. Bon, alors pour les quelques-uns, vous cherchez du côté de Zemmour, hein, là où on ose tout. Oui. Voilà, là vous êtes jamais déçus, mais voilà, bon. Mais il fallait trouver un moyen de rendre cette inscription moins percutante et surtout non contraignante pour l'État, parce que c'était ça qui était derrière. Et ce sont les sénateurs de droite qui ont trouvé l'astuce. Oui, sénateurs de droite qui, je vous le rappelle, ont à leur tête Larcher, qui est président du Sénat.
Oui, et qui sont majoritaires au Sénat.
Si pas, ouais. Oui, et donc voilà, donc c'est Monsieur Larcher en l'occurrence qui a réuni des gens pour dire hey, « j'ai peut-être une bonne idée ». Écoutez-moi, voilà. Alors plutôt que d'inscrire un droit, on va inscrire une liberté. Voilà. Alors, ils ont tout de suite été suivis par le président Macron, qui a repris immédiatement cette expression, coupant même à l'époque, hein, pour ceux qui s'en rappellent, l'herbe sous le pied de son ministre de la Justice, qui continuait, lui, oh le ringard, à parler de droit. Bah voilà. Et là, vous vous dites, bah, c'est pareil, une liberté, un droit. Hein, vous commencez à vous dire que décidément, à la causerie, on n'est jamais content. Hein, voilà. Bah oui, bah, c'est un peu le principe de la causerie.
Alors c'est pas. Si t'avais pas compris.
C'est pas totalement fou. Hein, donc, du coup, qu'on n'est jamais content. Mais surtout, vous vous plantez totalement si vous pensez que c'est la même chose. Parce que c'est là que ça devient intéressant. Ma chronique jusque-là, vous pouviez l'oublier. Alors, une liberté, c'est que vous pouvez faire. Alors, ça a l'air bête hein, quand je dis ça, mais en fait, il faut rappeler ce qu'en droit veut dire une liberté, et dans une constitution en particulier, ça veut dire que vous pouvez faire. C'est ce qu'on ne peut pas vous empêcher, donc pas vous empêcher de le faire, et qu'on n'a pas à vous juger pour l'avoir fait. Voilà, c'est ça une liberté dans la constitution. Alors oui, c'est une avancée, je ne veux pas dire le contraire, mais un droit inscrit dans la constitution, c'est différent. Quand il y a un droit d'inscrit, l'État se doit de garantir l'accès à ce droit, donner les moyens de, et donc l'État peut être contraint à le faire. Notamment par la justice, quand vous attaquez l'État. Vous savez, par exemple, quand on loge pas les enfants, alors que dans la Constitution, il est écrit qu'on protège, la France protège les enfants, donc on peut attaquer en justice. Alors, je dis pas que c'est rapide, que c'est machin, mais ça permet d'obtenir des solutions parce que l'État est contraint. Parce qu'on dit, bah oui, mais hey, dans la Constitution, c'est écrit. Donc, tu dois permettre de. Et tu dois donner les moyens de. Vous voyez, c'est pas juste permettre. Moyen et permettre. Donc, vous la sentez un peu l'arnaque derrière le changement de mot ?
À peine.
Voilà, voilà. Et donc, un compromis qui finalement est venu amoindrir tout ça. Hein, en cédant à la frange la plus réactionnaire et religieuse, Macron et son parti vont donc sciemment amoindrir la portée de cette inscription. Alors qu'on arrête de penser que c'est pas voulu, hein, parce que c'est comme Darmanin avec le droit du sol. Non, c'est juste que Macron et les gens qui l'entourent sont des réacs. Voilà, il faut arrêter de tourner autour du pot.
Oui, mais ça démontre toujours encore ce truc que, en fait, on peut être plus ou moins jeune, parce que finalement, ils sont assez jeunes,
l'âge n'a pas
et être vraiment des réactionnaires.
Tout à
hein
fait.
C'est pas que les vieux qui sont réactionnaires.
Bah, Bardella est pas vieux.
Hein. C'est ça.
Enfin, donc, bah oui, hein, si un gouvernement réac ou religieux venait à prendre le pouvoir demain, il peut parfaitement limiter le droit à l'avortement, car vous aurez la liberté de le faire, dans le cadre qu'il laissera. Oui. Mais aussi, d'ailleurs, mais vous avez aussi la liberté de le faire ailleurs qu'en France. Vous avez la liberté, pas de problème. On vous met aucun moyen, mais vous êtes libre, faites donc. Donc c'est donc en fait exactement ce que vivent aujourd'hui les femmes dans les États américains qui ont été élues des ordures. Et c'est bien cela qu'on nous propose au final, c'est-à-dire de vivre dans un État où on aurait une liberté, mais sans garantie de pouvoir l'appliquer. Et le piège, il est subtil, parce qu'il est difficile de dire, mais on veut pas de ça dans la Constitution, parce qu'on nous renvoie systématiquement qu'on serait donc contre l'avancée, et cela même de la part des fachos, réac et autres, qui ont en tête de pouvoir dézinguer ce droit fondamental dès que possible. C'est beau, non, quand même. Il est pas mal, le piège. Hein. C'est là que je me dis, quand même, il y en a, ils sont bons, hein, quand même. Bien entendu. Ah bah parce que ça nous manquait. Le pape s'est aussi mêlé et donc l'ordure vaticane a donc réaffirmé que son État, oui, il joue de ce statut.
Bah oui.
Et ouais, je rappelle que le Vatican a un statut d'État. Donc s'opposer à ce que cela arrive. Bon, alors en fait on s'en fout, hein, très clair. Mais on voit bien que dès que cette inscription sera faite, on aura une attaque sans précédent contre l'avortement. Les armes sont lustrées hein, du côté de ceux qui préparent cette offensive en France après l'avoir réussi ailleurs en Europe. Hein, on va quand même se rappeler que notamment les liens avec le Vatican font qu'aujourd'hui il y a 7 États européens où le droit à l'avortement est fortement réduit, voire inexistant,
oui,
comme un mal.
Ce que j'ai dit, ouais.
Hein, voilà, donc c'est pas anodin. Sous-estimer la victoire que vient d'obtenir le camp rétrograde et réactionnaire par ce changement de mot, hein, de sémantique, serait une sacrée erreur. Cela démontre bien l'influence actuelle du pire de la pensée, mais aussi la capacité des extrêmes droites à savoir jouer avec les mots pour se donner l'image d'ouverture dont elles ont besoin pour devenir respectables. C'est la fameuse dédiabolisation. Voilà, ben on a un bel exemple là. Mais surtout, ils sont bien aidés, hein, parce que le ministre, tout le monde, ils ont tous bien repris l'expression.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le pouvoir actuel est quand même très fort pour leur dérouler un tapis, quoi.
Et c'est là, en fait, hein, qu'il ne faut rien lâcher, très clairement. Si nous cédons maintenant sur ce subterfuge, nous allons nous en mordre les doigts et rapidement, quand on se rendra compte de l'inefficacité, sauf symbolique, de cette inscription. Et moi, le problème, c'est qu'on ne cherche pas des symboles, là. On cherche à sanctuariser un droit. C'est pas tout à fait la même chose. Mais au-delà de ça, si nous ne nous opposons pas clairement à la notion de liberté plutôt que de droit, nous allons offrir une victoire flamboyante à l'extrême droite, et elle saura surfer dessus. Après tout, hein, s'il suffit de jouer avec la sémantique pour que tout passe, pourquoi s'en priverait-il ? Alors, je vous rappelle, ils ont déjà commencé, hein, vous savez, on est passé de personnes sans papier à personnes présentant un manque de papier. Ça a l'air bête, hein, mais comme ça, et ça veut dire, eh bien, donc, ils sont méchants. Vous voyez, c'est un petit sous-entendu. On est passé de réfugiés à migrants. Oui, ces mots qui ont basculé comme ça. Ben là, on passe de droit à l'avortement à liberté de. Et ça n'est pas anodin, je le redis. Donc on voit bien dans la période que nous vivons, celle où certains et certaines cherchent à imposer ce qu'ils appellent la post-vérité, hein, voilà, ce truc popularisé par Trump, hein, c'est quand même celui qui en fait le plus, n'est pas, pas simple si nous ne nous méfions pas des effets de manche et de des mots qui sont triturés. Alors je vais le dire, je fais une petite parenthèse, j'espère qu'il n'y aura pas un vote unanime pour la liberté. Parce que ce serait drôlement emmerdant que la gauche emmène cette notion-là et appuie cette notion-là. Et je sais que ce ne sera pas facile de dire ça n'est pas suffisant, on ne veut pas de ça. Je sais que c'est compliqué et qu'il va falloir expliquer. Mais c'est ça, faire de la politique au sens large et pas être politicien. C'est ça, devoir expliquer que, bah oui, en fait, un mot, ce n'est pas la même chose qu'un autre. C'est ça où il va falloir un peu se battre. Parce que si on se laisse abattre et systématiquement prendre par ces jeux de dupes que sont en fait des réécritures, et ben on va se faire avoir tout le temps. Donc moi, je vous le dis sincèrement, et je le dis notamment aux associations féministes, mais pas pour leur donner de leçons, mais pour leur donner ma crainte, parce que je n'ai aucune leçon à donner aux associations, mais moi, j'ai une crainte très forte, c'est qu'un vote unanime sur cette liberté, c'est une reculade, c'est pas une avancée. Et c'est une reculade qui va nous faire mal. Parce que derrière, on va venir réécrire la Constitution avec des mots vides. Et là, en fait, moi, je suis pas un constitutionnaliste. Hein. Vous savez, moi, je suis pour l'abolition des frontières et des États. Mais je sais qu'une constitution, c'est aussi un moyen, parfois, y compris pour notre camp, d'éviter le pire. Parce qu'on arrive à attaquer l'État, parce qu'on arrive à gagner des choses, parce qu'on arrive à faire condamner l'État sur certains aspects. Et en fait, ça a cette importance-là, la constitution, qu'on le veuille ou non. Alors, on va pas, je suis pas là pour la défendre, mais je suis là pour dire que quand on y écrit n'importe quoi, c'est de pire en pire. Mmh. Et là, en fait, on va y écrire quelque chose qui risque d'être très dangereux. Voilà.
Ben, moi, parce que je sais que c'est une réflexion qu'on avait dit, on s'était déjà partagé, pas autour des micros, mais on va dire en dehors des micros. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas une analyse et une critique que j'ai l'impression d'avoir vue dans les réseaux féministes. Alors, encore une fois, je suis pas. Mais c'est une question. Alors, même
si, je l'ai lu.
Ami auditeur, auditrice. Ah ouais, tu l'as vu toi?
Ouais, je l'ai lu. Ouais.
Ah ben, ami auditeur, auditrice, n'hésitez pas à me faire passer cette info-là.
Il y a notamment des constitutionnalistes femmes qui ont dit mais attention, liberté, droit, pas pareil.
Ouais, ok.
Voilà, c'est comme le fameux droit au logement, vous savez. C'est pour ça qu'on peut faire condamner, parce qu'il est écrit un droit au logement. Alors que s'il y avait une liberté de se loger, on aurait du mal.
Ah oui.
Vous voyez, c'est un peu le truc.
Vous avez le droit de vous loger.
Vous avez le droit de vous loger. Allez-y, logez-vous. Ouais, c'est un peu le truc. Donc voilà, donc plus que jamais, il faut rester vigilant et vigilante, et surtout combattant et combattante. Et je sais que ce que je suis en train de dire, ça fait pas plaisir. Et je sais qu'on n'a pas envie de se dire, non, faudrait pas qu'on vote la liberté, parce que c'est pas une liberté comme on l'imagine. C'est une liberté un peu faussée dans ce cas-là.
Voilà. Il y a vraiment quelque chose en ce moment, j'ai l'impression qu'on. Il y a quelques années, on regardait les États-Unis en se disant. Ça part en vrille, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que plus je regarde actuellement le pays dans lequel on vit et le continent sur lequel on vit, et plus j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un peu la même chose. Et en fait, sauf que quand ça vient des États-Unis, on a une actualité par-ci par-là, et donc ce qui fait que c'est un peu un gros zoom et on se dit oh là là. Alors que là, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment la théorie de la grenouille, quoi. Enfin,
on chauffe l'eau petit à petit,
et vraiment, il y a quelque chose d'assez dingue, c'est que vraiment. On a l'impression que plus ça va et plus ça part dans le sens qu'on n'a pas envie, en tout cas nous, d'ailleurs, les micros.
Mais clairement, oui.
Et c'est assez dingue, quoi.
Mais c'est aussi parce que je pense je le dis avec sans provocation, sans donner de leçons, mais je le dis, c'est une réflexion personnelle que j'ai. Je pense qu'on cède trop sur la sémantique. Et je pense qu'en fait, on ne fait plus assez attention aux mots, au sens qu'ils leur sont donnés, à ce qu'on met derrière les mots, à pourquoi il faut éviter de les prononcer, pourquoi en fait. Jouer avec certains mots, c'est problématique aussi, et ça arrive aussi à gauche. Hein. Je veux dire, moi, j'ai toujours pas digéré, je le dis là comme ça, moi, on dira que tu tapes aussi sur Mélenchon et sur la LFI, moi, j'ai toujours pas digéré un gars qui est capable d'écrire qu'une ministre est allée camper en Israël, alors qu'il sait pertinemment à quoi ça renvoie, et à quoi ça... Et voilà. Moi, en fait, à un moment donné, c'est que à force de jouer comme ça, les perdants, c'est les plus faibles. Parce que, d'abord, souvent parce qu'ils n'ont pas les mots eux-mêmes, et aussi parce qu'en fait, les mots, ça peut tuer. On dit ça, mais c'est ce qu'ils entraînent qui va tuer. Et en fait, le problème, il est là. Et c'est que toute cette logique-là, elle est en train de s'installer. Et tu parlais de Mayotte, je vais faire un petit aparté. À Mayotte, en fait, on a aujourd'hui, très clairement, sur l'île de Mayotte, des gens qui manifestent, qui sont d'extrême droite. Alors ils ont beau être noirs, hein, je sais, les gens qui m'ont dit, bah ils sont noirs, bah oui ils sont noirs, mais ils ont des pensées d'extrême droite, hein, ça arrive. Excusez-nous, il y a eu tas de gens dans le monde qui sont pas blancs et qui sont aussi des fachos. Voilà, donc ils manifestent et leur slogan en fait, c'est de dire on veut pas de ça chez nous. Et le ça dont ils parlent, c'est là que c'est hallucinant. C'est qu'il faut pas oublier que Mayotte, j'en avais parlé, hein, c'est une île qui a été volée aux Comores par la France. Donc les ça, c'est leur cousin, cousine, c'est des gens qui connaissent, parce que souvent c'est des familles, c'est des gens en fait qui sont de la même famille, et on en est arrivé sur une île à avoir des gens qui disent je veux pas que ça, et le ça étant parfois des gens assez proches d'eux, ça peut être un cousin germain, des choses comme ça, arrive chez moi.
Bah le ça c'est des humains, quoi.
Ouais, et en fait c'est ça, et c'est ça le problème, c'est qu'en fait bah on minimise le fait qu'il y a une montée aujourd'hui partout de l'identitarisme, du fascisme,
du patriotisme, de la
peur de l'autre et de tout ça, et qu'on va pas arriver à abattre ça juste en se disant c'est pas grave, c'est une petite avancée, c'est déjà ça de pris. Parce qu'en fait, il faut plus céder sur ces trucs-là, parce que c'est des choses trappes et c'est des portes ouvertes à la suite. Et voilà, moi je suis là ce soir, je suis plus inquiet qu'autre chose. Ouais. Je donne le son à personne, mais je suis très inquiet.
Ouais. Voilà. On partage cette inquiétude. On passe à la ZIC.
Ouais, puis je veux plus mentir. Moi.
Bien vu.
C'est fini. Les mensonges à rallonge, artifices, pousse au vice, c'est fini. Les salades, les tromperies, vanités toutes pourries, c'est fini. Les illusions bidons, les semblants, les fictions, c'est fini. Fini. Non, mes cils sont pas longs, mes seins sont pas ronds, mes jambes sont pas lisses et j'ai des poils au pubis. J'ai pas une belle peau, j'ai du gras jusqu'aux os, mon ventre est pas plat et j'ai des poils sous les bras. J'suis pas obsédée par plaire au mec d'à côté, moi en vérité tout ce que je veux c'est la paix. Me voir dans la glace et mes lames font face, qu'à pas être belle pour vivre tranquille telle qu'elle. Je veux plus mentir, me charmer comme moi à la perfection, jusqu'à ne plus être qu'une contrefaçon. Je veux plus mentir, je ne veux plus jamais maquiller mon visage. Pourquoi on m'oblige à détester mon âge? Mentir, pour qui et pourquoi mentir à tour de bras? Pourquoi le monde entier tout autour de moi m'oblige-t-il à mentir? Moi je veux pas mentir. C'est fini. La lingerie hors de prix, les talons, les baillons, c'est fini. Les tortures, les postures, injonctions à la con, c'est fini. La culpabilité de jamais être assez, c'est fini. Fini. Non, je veux plus rien raquer, je veux plus rien payer. Un jour je vais crever, je veux mourir sans regret, sans honte, sans remords, faire face à la mort, vivre sans masque et sans phare avant qu'il ne soit trop tard. Résiliente et fière, mon courage en bannière, ne vivre que de vérité, plus jamais baratiner, plus jamais faire croire que je suis une autre, plus jamais me trahir, plus jamais me faillir. Je veux plus mentir, m'acharner comme moi à la perfection, jusqu'à ne plus être qu'une contrefaçon. Je veux plus mentir, je ne veux plus jamais maquiller mon visage. Pourquoi on m'oblige à détester mon âge? Mentir, pour qui et pourquoi mentir à tour de bras? Pourquoi le monde entier tout autour de moi m'oblige-t-il à mentir? Moi je veux pas mentir. C'est fini.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et on vient de s'écouter un titre de Mathilde. Et c'était Je veux plus mentir, d'où ma petite sortie à la fin de mon chronique. Voilà. Et j'aime bien Mathilde, pas tout. Mais ça, j'aime bien. Non, je le dis, j'aime pas tout ce qu'elle fait. Mais là, ce titre-là, je l'ai trouvé excellent. Donc voilà, c'était l'occasion de vous le passer ce soir.
Eh bien, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On donne d'abord les événements, ouais. Ou est-ce qu'on rappelle comment
non,
on
joue? Non, non, je vais d'abord donner l'événement.
Allez, vas-y.
Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, vendredi 2 février, vers 5h du matin, il y a trois jeunes personnes racisées qui ont été violemment agressées par un groupe de militants d'extrême droite, au poing et au couteau, dans le secteur des terreaux à Lyon. Deux des agressions agresseurs ont donc été condamnés ce mardi 6 février à des peines de prison ferme de 2 ans pour l'un et 6 mois pour l'autre. Hein. Les circonstances aggravantes du mobile raciste ont été retenues, ce qui est assez rare. Hein. Donc voilà. Donc les personnes condamnées, hein, sont un ancien militant de Génération Identitaire, ainsi que Sinisha Milinov, hein, pour les Lyonnais, vous. Ce nom doit vous dire quelque chose. Candidat quand même pour le Rassemblement National au municipal de 2020 à Villeurbanne. Ancien responsable local de la cocarde étudiante et habitué des groupuscules d'extrême droite lyonnais, les Remparts, qui mènent régulièrement des actions. Voilà. Et des actions.
Oui, des actions.
Voilà. Sexistes, racistes, tout ça. Donc voilà. Donc du coup, il y a un appel à rassemblement par deux collectifs, dont un qui demande la fermeture des locaux fascistes, mmh, et un autre qui appelle à la riposte contre l'extrême droite. Et donc c'est un rassemblement lundi 12 février à 18h30, place de la Comédie. Donc la place de la Comédie, pour si vous ne savez pas, c'est à côté de l'Opéra. Hein. Mmh. Donc voilà, ça aurait été métro-opéra. Et donc c'est donc à partir de 18h30, et l'idée, c'est d'apporter aussi une autre soutien aux personnes qui ont été blessées, agressées. Voilà, et donc bah voilà, donc c'est donc important pour ceux qui ont envie d'y être ou pas, mais ce qui est important, c'est de ne pas nier que l'extrême droite à Lyon est un petit peu en terre conquise, ce qui est un vrai problème.
Voilà. Mmh, clairement. Eh bien, l'autre rendez-vous, c'est évidemment dimanche prochain, c'est la causerie. À partir de 22h, on sera en compagnie de Bastien Castres avec le numéro des rues de Lyon du mois de février, qui portera sur la Révolution française à Lyon. Et en mars, on parlera
de contre-révolution.
De contre-révolution à Lyon, toujours avec les rues de Lyon. Voilà, donc on aura deux émissions autour des rues de Lyon en février et en mars.
Et autour surtout de la Révolution française.
Oui, oui, évidemment.
C'est
oui.
L'occasion de parler de ça.
Évidemment. Donc ça sera dimanche prochain. On sera le 18.
À 22h, comme d'habitude.
C'est tout à fait ça.
Et si t'as aimé cette émission, bah, tu peux la retrouver sur les blogs de Radio Canu à blogs, avec un S, radiocanu.org/lacauserie, où tu tapes Radio Canu, La Causerie, tu vas tomber sur nous à un moment donné. Tu peux aussi retrouver le podcast de cette émission sur la plupart des agrégateurs de podcasts, donc tu tapes La Causerie Canu et tu devrais là aussi nous trouver. Si tu as envie de nous écrire, si tu es un artiste, si tu es une personne qui a envie de témoigner, si tu as envie de nous dire, bah tiens, j'ai cette idée-là, voilà, ou si tu as envie de nous dire que tu n'aimes pas l'émission aussi, hein, tu as le droit, si tu as envie de nous dire que tu aimes bien l'émission, tu as le droit aussi, parce que ça fait plaisir, et bah tu peux soit nous laisser un commentaire sur le blog, soit nous écrire à lacauseriecanu@gmail.com. Et voilà, et sinon, bah, on a aussi une page Facebook, mais c'est plus pour faire de la promo auprès des vieux, parce que finalement sur Facebook il n'y a plus que ça, plutôt que autre chose, donc c'est pas la peine. Et par contre, on remercie toujours les personnes qui partagent l'émission, y compris sur des réseaux où nous ne sommes pas du tout, aucun des trois, et ça fait plaisir de voir que ben, y a des gens qui aiment bien ce qu'on fait et qui le diffusent sur des LinkedIn, sur des TikTok, j'ai vu aussi. Donc voilà, on est diffusé
sur LinkedIn.
Ouais, c'est assez. Ouais, il y a des gens qui partagent sur LinkedIn. Je sais pas pour comment. Voilà.
Ça va pas servir leur carrière.
C'est ce que j'allais dire. C'est faites. Voilà, enlevez-le de vos profils parce que ça va pas vous aider. Mais en tout cas, voilà. Mais je sais aussi que c'est partagé sur TikTok où nous ne sommes pas du tout. Et donc voilà, mais c'est super sympa parce que bah c'est aussi comme ça qu'on fait connaître l'émission et ça nous fait plaisir de se dire qu'on la fait pas pour rien.
Mais c'est comme ça qu'on arrivera à conquérir l'univers.
Ouais, mais là, si tu dis ça, là, c'est foutu, quoi. Je veux dire.
Oh, bah si on n'a pas le droit d'être un petit peu autoritaire et
mégalomane,
faut le dire, quoi. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait tous les rappels. Hein. On est bien à l'heure, mais c'est magnifique.
Mais oui.
Et ce soir, on va se quitter en musique, une musique assez calme, mais au texte très important. C'est le titre, le cachet du groupe Astéréotypie. Je vous en ai déjà passé, ouais. Je vous en ai déjà parlé. Donc là, c'est un nouveau titre qui est issu. Oh, c'est pas le dernier album, je sais plus.
Avant-dernier album.
Ouais, je sais plus.
C'est pas
je
sur le dernier, c'est sur celui d'avant.
Je peux pas dire de bêtises, mais voilà, c'est le cachet donc d'Astéréotypie.
Bah, on peut quand même dire, on fait rarement de la promo pour la télé, mais on va quand même le faire. Les rendez-vous du Papotin, parce qu'ils sont issus du Papotin, et ben c'est vachement bien. Et c'est une des rares émissions de télé à qui je pourrais dire à tout le monde, allez voir ce truc-là, parce que c'est vraiment bien. Donc voilà, et vous
c'est
tapez,
un collectif qui monte un journal
qui s'appelle Le Papotin.
Le Papotin, et ils sont, c'est major. majoritairement, où c'est que des personnes
atteintes d'autisme.
Oui, pardon, merci, je trouvais plus le mot. Ben voilà, donc ça c'est fait.
Moi c'est okay, fait. J'avais envie quand même de le dire.
Mais tu as bien fait. Tu as bien fait. Et dans laquelle on retrouve d'ailleurs aussi Babouyek, dont je vous ai déjà parlé.
Et sur ce,
on va vraiment s'arrêter. Donc on se quitte avec Astéréotypie, le titre, le cachet. On vous donne rendez-vous dimanche prochain avec Bastien Castres pour parler Révolution française à Lyon. Et d'ici là, portez-vous bien.
Et on fait des bisous.
Des bisous. Ciao.
Ciao.
C'est quoi le cachet ? Je vais vous le dire. C'est un médicament qui m'empêche de lire, réfléchir. Quand je prends mon médicament, je suis tout fatigué. Ça dépend de mon médicament. La pilule bleue. Quand est-ce qu'on va l'arrêter ? Ça dépend si mon comportement est inadapté. Il faut l'arrêter quand on a un comportement adapté. Je suis mieux quand je suis sans. On dit soit le médicament, soit le traitement. Quand je l'ai dans mon estomac, je me sens pas bien. C'est pas bien. C'est pas bon pour la santé. Si je ne le prends pas, je mourrai à 100 ans. Si je le prends, je mourrai à 30 ans. Je me sentirai bien toute ma vie. Ça sert pour me calmer, mais ça m'empêche de me réveiller. J'aimerais pouvoir me calmer sans médicaments. Les gouttes, ça sert à endormir le corps. Ça m'emmerde le médicament, ça pourrit mes dents. Le docteur n'est pas un monstre, mais il m'a donné un produit dangereux. Je veux pouvoir réfléchir, ne pas passer ma vie à dormir. C'est quoi le cachet ? Je vais vous le dire. C'est un médicament qui m'empêche de lire, réfléchir. Quand je prends mon médicament, je suis tout fatigué. Ça dépend de mon médicament. La pilule bleue, quand est-ce qu'on va l'arrêter ?